talmudique.
Non mais franchement, qu'est-ce que tu lui trouves, hein? Il est beau, c'est ça? Moi aussi je suis beau dans mon genre. Et puis la beauté, hein, c'est toi qui le dis.
Ça ne veut rien dire.
Nous sommes d'accord. Alors, intelligent? C'est pas Marcel Proust, excuse-moi.
Je t'excuse. J'aime cet endroit.
Je peux t'acheter si tu veux avec tout. Le bar, la pharmacie, le petit fleuriste, toute la rue si ça te plaît. Je fais pas des petits dessins dans les coins, moi. Je gagne de l'argent. De l'argent.
Très chic. Refais ce geste.
On va avoir un peu de beurre, là, s'il vous plaît.
Les dernières heures d'une histoire d'amour de l'énigmatique Henri Pic. Véritable triomphe littéraire. Madeleine Pic, je pose la question tout haut que beaucoup de gens se posent tout bas. Êtes-vous certaine que c'est bien votre mari qui a écrit ce roman?
Vous êtes en train de vous moquer de mon mari.
Non mais vous l'imaginez, le pizzaiolo breton qui pond un bouquin de cette envergure?
Mais sérieusement, toi tu vois papa écrire ça entre deux fournées de pizza?
Si on pouvait trouver une lettre, une carte postale...
Ouais, j'en ai des lettres de lui.
Ouais, c'est pas exactement ce dont je me souvenais. Peut-être que c'est en tombé sur la liste de courses de Proust.
Oui, mais on a retrouvé la liste des courses de Proust et ça de la gueule.
2022 fêtera le centenaire de la mort de Marcel Proust, l'occasion de découvrir cet Everest de la littérature sous ses multiples facettes dont l'écriture est devenue l'aune à laquelle se mesure l'intelligence, la puissance et la beauté d'un style, comme nous venons de l'entendre dans ces deux extraits tirés respectivement de César et Rosalie de Claude Sautet et du mystère Henri Pic de Rémy Besançon, qui souligne aussi à quel point l'œuvre de Proust, bien que réputée difficile, est présente dans la culture dite populaire ou grand public. Proust, toujours présent aujourd'hui, nombreuses sont les occasions de lui rendre hommage et le témoignage de nombreuses personnes que les confinements successifs furent l'occasion de prendre enfin le temps de le lire est un signe qui ne laisse pas indifférent. Son œuvre n'a cessé de susciter des commentaires et des études qui ont beaucoup évolué à travers les époques et l'on peut dérouler une historiographie de la réception à la fois de la vie et de l'œuvre. À la lumière de ces nouvelles approches critiques, s'est dévoilée la genèse d'une écriture qui nous fait découvrir que lire, écrire et vivre étaient pour Marcel Proust une même et une seule chose. C'est ce que nous explorerons lors de deux émissions dans lesquelles ces questions de lecture et d'écriture seront aussi mises en relation avec une autre entrée, moins évidente, concernant cette œuvre, le fait que Proust était juif et que cette judéité fut un sujet important pour l'auteur de « À la recherche du temps perdu ». Et pour explorer ce Proust juif et lecteur, c'est avec l'un de ses meilleurs connaisseurs que nous avons désiré nous entretenir cette semaine et la semaine prochaine, un écrivain prolifique et talentueux, aussi à l'aise dans les textes de la recherche du temps perdu, de Céline et de Kafka, que dans la Bible, le Talmud, le Midrash et le Zohar. Stéphane Zagdanski, bonjour.
Bonjour Marc-Alain Wachnin.
Stéphane Zagdanski, j'aimerais commencer par une question qui renvoie à l'un de vos livres justement consacré à Proust, intitulé « Le sexe de Proust » paru chez Gallimard en 1994. Dès la première page, vous écrivez « Vous savez ce qui est un classique, n'est-ce pas ?» demandé Mingway en donnant aussitôt la réponse « Un livre dont tout le monde parle et que personne ne lit ». Et vous ajoutiez « Proust, à cet égard, est le grand classique du siècle, le vrai Pentateuque de notre temps ». Qu'entendez-vous par le vrai Pentateuque de notre temps? Et est-ce que 30 ans plus tard, c'est encore votre position, Stéphane Zagdanski?
Oui, bien, c'est ma position parce que, en bon proustien et en bon lecteur de Proust, je considère qu'il n'y a pas d'avant ni d'après dans l'amour que l'on porte à la recherche du temps perdu. Donc, d'une certaine manière, vous savez, les Juifs appellent Moïse, l'auteur donc du Pentateuque, le plus grand prophète du judaïsme, sous la dictée de Dieu. On l'appelle Moïse notre maître, Moïse Rabbeinu en hébreu. Eh bien, Proust, c'est le Marcel Rabbeinu de la littérature française, c'est-à-dire c'est vraiment celui qui est, comme vous l'avez dit, au sommet de tout. Et c'est plus que ça, c'est-à-dire c'est un chef-d'œuvre à la recherche du temps perdu, donc qui est constitué de plusieurs romans, mais qui forme un seul et unique roman, une seule et unique narration. C'est un chef-d'œuvre qui est tellement profond, puissant, novateur et inventif dans l'histoire de la langue et l'histoire de la littérature qu'il se place, il est au XXe siècle, donc c'est non seulement le plus grand écrivain de langue française du XXe siècle, mais probablement de tout le XXe siècle dans tous les domaines. domaine, et il est immédiatement au niveau de Shakespeare, de Dante, c'est-à-dire des très grands, des ultimes écrivains, de Homère, et lui-même, ça tombe bien, parce que il disait que tous les écrivains n'en sont qu'un, et que depuis Homère jusqu'à lui, il le disait pas par modestie, mais depuis Homère jusqu'à Proust, au fond, on n'a pas tellement fait de progrès, parce qu'en art, il n'y a pas de progrès, il n'y a que du sublime permanent et perpétuel.
Ce chef-d'œuvre de littérature, en quoi il consiste dans la langue?
Si vous voulez, pour le dire de manière très simple et directe, c'est un roman révolutionnaire à divers égards qui repense toute la question du temps. Donc en fait, il faut partir du titre général de la recherche, à la recherche du temps perdu, qui est un titre un peu énigmatique. Qu'est-ce que c'est que cette recherche et pourquoi on a perdu le temps et où est-ce qu'on l'a perdu? Au fond, c'est une longue méditation sur le temps, la recherche du temps perdu, et c'est une véritable méditation sur le temps, sur la temporalité, mais conçue de manière révolutionnaire. Et le fait que ce soit un roman et pas un essai philosophique est en soi aussi déjà une forme de révolution, que ce soit un écrivain, un littéraire, qui la médite, cette méditation, qui la conçoive, en comparaison de la conception habituelle, cartésienne, rationnelle, logique, occidentale, qu'on se fait tous du temps comme un écoulement irrépressible qui va de l'avant vers l'après en passant par le maintenant. Et il fait exploser cette conception-là, et c'est en ça que c'est tellement merveilleux, la recherche du temps perdu est tellement révolutionnaire.
Un petit peu comme Einstein.
Alors exactement, il en avait conscience, il savait très bien qu'il avait inventé quelque chose de tout à fait inédit et subversif et révolutionnaire concernant le temps. Parce qu'on le comparait beaucoup à son cousin éloigné Bergson, qui a aussi beaucoup parlé du temps et qui était son contemporain, et ça lui plaisait pas tellement. Lui, au contraire, il préférait se comparer à Einstein. Et il y a par exemple une lettre qu'il écrit à son ami le duc de Guiche en 1921, donc vers la fin de sa vie, où on sent qu'il jubile d'être comparé à Einstein. Et il écrit au duc de Guiche, il dit « Que j'aimerais vous parler d'Einstein. On a beau m'écrire que je dérive de lui, ou lui de moi, je ne comprends pas un seul mot à ses théories, ne sachant pas l'algèbre. Et je doute pour sa part qu'il ait lu mes romans. Nous avons, paraît-il, une manière analogue de déformer le temps. » Voilà, donc tout le génie de Proust, il est dans cette déformation du temps à laquelle procède la recherche du temps perdu.
Comment se fait cette déformation?
Il suffit, pour le comprendre, de raconter de quoi parle la recherche. C'est, au fond, c'est un livre très simple. La narration, le récit, la trame de la recherche est quelque chose de très simple. Et si on essaie de résumer de la manière la plus simple, ça fait quasiment 5170 pages dans l'édition de 46 chez Gallimard. Alors, toute la recherche du temps perdu. Alors, si on veut résumer ces 15 volumes de la recherche, il s'agit tout simplement du récit d'un homme qui va de son enfance, au début de la recherche, est un jeune enfant, jusqu'à sa maturité, à la toute fin de la recherche, qui va s'initier à la littérature. C'est ça la recherche du temps perdu. C'est le récit d'un homme qui désire devenir écrivain, un écrivain d'exception, exactement comme tous les écrivains dont il parle, les grands écrivains et qu'il cite tout au long de la recherche. Donc c'est un livre sur les livres aussi. Et tous ceux qu'il a lus, et aussi la figure du grand écrivain idéal qu'est Bergotte, dans la recherche. Et on le suit donc durant toute sa vie, en train de chercher la recette pour trouver une idée merveilleuse, pour faire un roman qui soit éblouissant. Et c'est quelque chose de l'ordre du désir, c'est du plaisir. C'est pas une corvée, c'est un plaisir, c'est un désir. Il veut devenir écrivain, il veut écrire un roman novateur qui introduirait son lecteur à une expérience vivante, vivante, c'est très important de dire, ni nostalgique, ni chronométrable du temps et de la temporalité. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette idée, il la trouve seulement à la fin du roman, c'est son eureka littéraire, il comprend enfin à la fin du roman, et donc le lecteur assiste à toutes ces méditations de Proust, enfin du narrateur, dans sa tête c'est le narrateur, et lorsqu'il arrive à la fin du roman et qu'il dit qu'il a enfin sa grande idée et qu'il va pouvoir commencer son roman, eh ben en fait le roman c'est celui qu'on vient de lire sous les yeux, de 15 volumes, donc c'est un tour abracadabrantesque, si vous voulez, merveilleux de Proust.
Il y a quelque chose à réfléchir entre le début et la fin, et je crois qu'un des grands commentateurs de Proust, qui fut Genette, a dit quelque chose de très intéressant par rapport à cela.
Oui, Gérard Genette, le grand critique littéraire, a fait une opération, aussi une sorte d'opération magique, c'est-à-dire qu'il a fait remarquer que si l'on prenait le tout début de la recherche, à savoir la phrase la plus connue quasiment, « Longtemps je me suis couché de bonheur », et qu'on la fusionnait avec la toute fin de la recherche, les derniers mots de la recherche, qui sont « Dans le temps », et qu'on faisait une phrase de ces deux phrases, ça devenait « Longtemps je me suis couché dans le temps ». Et en cette phrase, c'est merveilleux, c'est une merveilleuse trouvaille de Genette, parce qu'en cette phrase, on a quasiment toute la thématique de l'invention de Proust, y compris avec la question de se coucher, de se pâmer dans le temps, de nager dans le temps, et puis d'être dans une position à la fois horizontale, qui était celle avec laquelle il écrivait, et en même temps d'être dans une verticalité qui traverse la temporalité.
Comme vous êtes à la fois proustien et grand connaisseur du Talmud, vous avez fait un rapprochement entre cette pensée de Genette et la structure même du Talmud, qui a aussi, alors pas 5000 pages, parce qu'il y en a 50 000 si on peut dire, mais c'est quelque chose de très semblable. Stéphane Zagdanski.
Oui, alors ça m'a donné une idée, vous avez raison, cette belle trouvaille de Genette. J'ai eu l'idée, je me suis dit, mais si on faisait la même chose avec le Talmud, il y a beaucoup de points communs entre le Talmud et Proust. Et d'ailleurs, je voudrais vous rendre hommage, Marc Alain, parce que vous avez écrit dans un de vos livres que le Talmud et la manière dont typographiquement se structurait le Talmud, ça faisait beaucoup penser à la manière tout à fait sinueuse et imprévisible, imprédictible des canaux de Venise, où fut imprimé le premier Talmud. Venise est très important, évidemment, dans la recherche, c'est un thème important, on y reviendra. Et donc, dans le Talmud, je vous dis, mais si on prend le premier mot du Talmud et le dernier mot, qu'est-ce qu'on obtient? Alors, le premier mot du Talmud, vous connaissez ça par cœur, c'est « à partir de quand, Meïmataï, à partir de quand doit-on réciter le schéma le soir ?» C'est le tout premier mot du Talmud, « à partir de quand ?»
Donc déjà, c'est une question, et une question sur le temps, c'est
exactement,
extraordinaire.
C'est déjà une question temporelle. Et les tout derniers mots, c'est-à-dire tout à la fin du traité Nida, qui est consacré aux femmes, c'est le mot « halachot », qui signifie à la fois la loi, la juridiction, mais aussi, au sens propre, les chemins, les cheminements, donc un sens spatial. Donc si on fait comme Genette et qu'on prend le premier mot du Talmud et le dernier mot du Talmud, on a « à partir de quand les cheminements ?» Et donc on a de nouveau aussi une sorte de révolution spatio-temporelle amenée par ces choses-là. Ça, ce sont des jeux avec les mots qui sont, d'une certaine manière, et la jouissance de jouer avec les mots, qui sont à la fois typiquement juifs et typiquement proustiens.
Alors, vous écrivez, toujours dans le sexe de Proust, cette phrase « En un mot, et à condition de savoir un tant soit peu lire, non pas entre, mais à même le lit des lignes, on y contemple de part en part la cristallisation étoilée et limpide du secret des écrivains. » Quel est le secret de Marcel Proust? Dans le lit de quelle ligne l'avez-vous découvert? Et sans doute, le terme de lit que vous utilisez n'est pas anodin, car c'est un mot qui désigne à la fois le lit, dans lequel on dort, dans lequel on se couche, et l'activité de la lecture, quand on dit « elle lit » ou « il lit ». Deux sens du mot « lit » qui apparaissent dès le cinquième paragraphe de la recherche. Stéphane Zagdanski.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la lecture et l'écriture sont les deux phases d'une seule et même pratique, d'une seule et même existence, et donc d'une seule et même vie. Et à cet égard, la recherche du temps perdu, c'est à la fois le roman d'une écriture, donc le récit, comme j'ai dit tout à l'heure, d'une vie vouée à l'écriture. C'est l'écriture d'une lecture et la lecture d'une écriture. C'est-à-dire, ou plutôt la lecture d'une écriture, on lit un roman qui nous initie à l'écriture et à quelqu'un qui va devenir écrivain, et c'est aussi une écriture qui nous apprend à lire le roman lui-même, tel qu'il est, et à lire les grands livres qui permettent à un écrivain de se nourrir. Par rapport au sommeil, ou plutôt au lit, à la lecture, au mot « lit » qui renvoie au lit de l'écrivain qui est couché, on sait que Proust écrivait la nuit, a beaucoup écrit la nuit, et dans la recherche, d'ailleurs, à la fin de la recherche, il se compare lui-même au hibou qui vit la nuit et qui, lorsque tout le monde dort et lorsque tout le monde est dans le silence, se met à créer et à innover. Mais c'est surtout le lit, le double jeu entre lit et lecture, et lit et solitude et nuit et nocturne. Et la joie de la nuit, d'une certaine manière.
Oui, alors d'ailleurs, Céleste Albaret, qui fut la gouvernante de Proust pendant les 8 dernières années de sa vie, dans ses entretiens avec Georges Belmont, parle très longuement de la manière dont il écrivait dans son lit, quelles étaient les positions, les plumes sergent-major qu'il utilisait, l'encrier presque vide. Et je crois que c'est important d'imaginer Proust allongé dans son lit et en train d'écrire, Stéphane Zagdanski.
Oui, et puis c'est surtout, faut pas oublier, ça c'est aussi une anecdote célèbre, c'est qu'il écrivait dans sa chambre, donc, et qu'il avait, pour ne pas entendre le bruit des voisins, et pour être dans un silence parfait, il avait tapissé toute sa chambre de liège. Donc c'était comme un bathyscaphe, comme un sous-marin d'écriture et de pensée dans lequel il était parfaitement seul, parfaitement isolé. Et il dit à la fin de la recherche que les livres sont les enfants du silence et de la solitude.
Les livres sont les fruits du silence, et lui-même est le fruit de sa propre mère, il est le fils de sa mère, et je me suis demandé si ce double sens du mot « lit », à la fois le lit où on se couche et le lit du verbe « lire », de la lecture, n'était pas de la part de Proust une volonté très subtile, dès le début de la recherche, de nous faire découvrir, en relation avec cet épisode du coucher, une autre dualité profonde et essentielle, celle de l'identité de sa mère, Stéphane Zagdanski.
Oui, vous avez tout à fait raison. Ça, c'est dès le début de la recherche. On est à la fois dans un lit parce qu'il doit aller se coucher et qu'il n'arrive pas à s'endormir parce qu'il attend le baiser maternel qu'il attend tous les soirs. Et c'est tout le début de la recherche qui introduit la mère du narrateur, qui n'est pas juive dans le roman, mais alors que la mère de Proust était juive et que c'est un personnage extraordinaire. C'est-à-dire qu'il avait une relation avec sa mère, Proust lui-même, le vrai Proust, il avait une relation fusionnelle, typiquement, névrotiquement juive avec sa mère juive. Donc c'est évidemment un personnage essentiel de la recherche. Et elle est très importante parce que chez Proust, la recherche est aussi un roman merveilleux qui radiographie tous les faux-semblants et tout ce qu'il y a d'invisible sous le visible et de visible sous l'invisible. Et là, il joue avec le double jeu d'une mère catholique et qui est en réalité juive. Alors on sait, pour la vraie mère de Proust, on sait qu'elle était très cultivée, donc elle venait d'une famille, elle s'appelait Jeanne Clémence Weil, elle venait d'une famille d'origine juive, alsacienne et allemande, et par exemple, Evelyne Bloch-Dano, dans Madame Proust, qui lui a consacré un roman, l'a décrit, donc là c'est la vraie mère de Proust, c'est pas la mère du narrateur dans le roman, elle sait le latin, et parle couramment l'anglais et l'allemand, et comme sa mère a elle-même, donc la grand-mère de Proust, elle est excellente pianiste, elle partage avec ses parents et son frère la passion des livres, elle aime comprendre et approfondir. Chez les Weil, on discute beaucoup et cela seul suffirait peut-être à les distinguer des familles de la bourgeoisie traditionnelle où les filles grandissent comme des oies engraissées en vue du seul mariage. Fin de la citation de Evelyne Bloch-Dano. Donc c'est un éloge de la mère de Proust et c'est avec cette mère qu'il fusionnait. Et lorsqu'on lit le portrait qu'il fait d'une certaine Madame Marie dans Jean Santeuil, qui est comme le brouillon de la recherche Jean Perdu, c'est son premier roman de jeunesse mais qui est une sorte de préparation à la recherche, il décrit une certaine Madame Marie. Et en réalité, c'est un portrait de sa mère. Il dit « c'était une créature exquise, femme ravissante et spirituelle, épouse et mère sublime, qui était morte de la poitrine à 30 ans. C'était une juive, et il avait fallu l'ascendant de son charme et l'expérience de ses vertus pour que Madame Santeuil, donc la mère du narrateur, issue d'un milieu où pesait sur les juifs la défiance la plus profonde, ait pu s'attacher à une juive comme à une sœur. » Mais à toute créature de bonne foi, une intelligence et une bonté divine, un charme surhumain produisent immédiatement leur titre, etc., etc. Et il y a un autre portrait où il parle de sa mère, c'est dans le Contre Sainte-Beuve, donc c'est un essai, c'est plus son roman, qui s'appelle Conversation avec maman. Et là, tout à coup, on voit la judéité de sa mère qui transparaît et l'amour qu'il a pour sa mère et pour la judéité de sa mère. Une sorte de réverbération juive en lui qui résonne dans son amour pour sa mère. Voilà ce qu'il écrit, parce qu'il est malade, il se décrit comme malade, et sa mère, pour le consoler, vient lui réciter du Racine, une pièce de Racine. Et quelle pièce de Racine elle choisit ? Esther, l'histoire de la reine Esther, donc la reine juive cachée qui a sauvé les juifs dans le rouleau d'Esther. Donc voilà, il dit « Maman essayait timidement un air du cœur comme une des jeunes filles de Saint-Cyr ». Donc Racine, il fréquentait les jansénistes qui étaient un milieu extrêmement catholique et très philosémite, comme Pascal. Comme une des jeunes filles de Saint-Cyr essayant devant Racine, et les belles lignes de son visage juif, tout empreint de douceur chrétienne et de courage janséniste, en faisait Esther elle-même, dans cette petite représentation de famille, presque de couvent, imaginée par elle pour distraire le despotique malade qui était là dans son lit.
Mozart, « À vous dirais-je maman », variation sur un thème d'une chanson enfantine. Nous avons là tous les ingrédients de l'écriture de Proust, de Stefan Zagdanski. Un thème, celui de maman, et des variations qui ne sont pas toujours explicites, mais affleurent ici et là et parfois qui courent de manière souterraine comme une nappe phréatique pour réapparaître beaucoup plus loin, jaillissante ou encore en une source discrète. Ainsi, je crois qu'il existe des mots souterrains qui produisent des relations entre les textes absolument signifiantes. Et l'idée de cette dualité de la mère que vous venez de décrire, cette dualité, ce maranisme, je l'ai découvert chez Françoise, qui est la cuisinière qui apparaît très très vite dans la recherche. Cette cuisinière est présentée comme pratiquant des règles culinaires juives, et en particulier l'interdiction de mélanger le lait et la viande, les aliments carnés et lactés, et l'interdiction de manger le nerf sciatique. Ce qui est passionnant dans ce texte, et ce qui est beau dans les études proustiennes, c'est que non seulement on lit le texte qui existe, mais on a cherché tous les brouillons, toutes les genèses, toutes les strates archéologiques de ce texte, la génétique de ce texte. Et dans un premier brouillon, on a découvert le même texte, mais au lieu que Proust écrive les lois antiques, il écrit clairement certains codes très antiques de la vieille loi juive, par exemple, qui interdit de faire bouillir le chevreau dans le lait de sa mère. Donc il y a vraiment la volonté de montrer que Françoise a en tout cas des pratiques culinaires juives. Qu'est-ce que on peut en apprendre, Stéphane Zagdanski?
C'est passionnant parce qu'il faut savoir, il faut comprendre que dans Proust, tout est un jeu de miroir permanent et que les personnages sont diffractés dans toute la recherche et que chacun a des étincelles d'un autre personnage. Donc il n'y a pas un seul personnage. En partie, Françoise, le modèle, c'est Céleste Albarès, sa gouvernante, son amie, celle qui l'a aidé à écrire jusqu'à la fin de sa vie la recherche. C'est en partie sa mère, etc. Donc en effet, les lois juives, il les connaissait par la famille maternelle, par le côté de la famille maternelle. Ce qui est très intéressant, c'est que si on revient à sa mère juive, parce que Françoise est d'une certaine manière aussi un peu...
Un substitut de la mère
et fragmentairement une partie maternelle et juive de lui-même, en réalité. Un peu comme la mère et la grand-mère dans la recherche sont une seule et même personne. Donc c'est labyrinthique, c'est exactement comme les canaux de Venise ou comme le Talmud. La recherche est un ouvrage de diffraction et de réfraction labyrinthique où tous les personnages sont tous les uns dans les autres et finalement sont tous des créations de lui-même et sont tous des fragments, des faces pluriel, comme en hébreu, lorsqu'on le mot visage, je veux dire, on le dit panim, c'est-à-dire c'est les visages en hébreu. Eh bien, il y a des visages de Proust qui sont dans chacune de ces phrases et dans chacun de ces personnages. Et ça, on le comprend si on revient sur la mère juive de Proust et qui donc on a comparé tout à l'heure à la reine Esther, donc la reine juive cachée qui va sauver le peuple juif dans la scène du baiser au tout début. Ce que je veux dire par là, par rapport à François, c'est que ce jeu entre judaïsme et catholicisme, il joue à fond en permanence dans un très bel aller-retour où d'une certaine manière, il revivifie le catholicisme familial du côté de son père par le judaïsme de sa mère. Comme si le judaïsme était finalement d'une certaine manière la religion la plus neuve pour lui et non pas celle qui était la plus ancienne, la plus antique et qui a donné naissance au catholicisme qui est la religion fille.
Donc il inverse ce rapport. Du temps un petit peu, c'est intéressant parce qu'on retrouve l'inversion du temps.
Exactement.
Que vous avez en tout cas dans la structure.
Exactement, et puis il y a aussi un rapport avec le Christ qui est d'une certaine manière le fils juif le plus connu du monde et qui est aussi selon la doctrine de la Sainte Trinité, le Christ est à la fois le Saint-Esprit, le Fils et le Père, il devient le père de sa propre mère. Puisqu'il est aussi Dieu le Père pour les catholiques. Donc vous voyez, d'être à la fois le fils et le père de sa propre mère, et d'être un fils juif comme ça, fusionnel avec sa mère, c'est quelque chose qui ne pouvait que parler à Proust. Donc c'est des choses dont on peut donner des dizaines d'exemples, mais des choses très fines, très subtiles, très raffinées, et qui sont toujours très inventives et subversives et étonnantes chez Proust. Ce ne sont jamais des clichés, qu'il parle des catholiques ou du catholicisme, ou qu'il parle des juifs et du judaïsme. Il faut rappeler quand même, c'est quelque chose d'essentiel, c'est que c'est le grand roman aussi sur l'affaire Dreyfus et sur l'antisémitisme en France à l'époque, avec analyse d'une profondeur et d'une grandeur et d'une bonté chez Proust vis-à-vis des Juifs qui n'a pas d'égal.
Alors il était un grand Dreyfusard, comme on le sait dans les témoignages de Céleste Albarès, et on sait même qu'il s'est fâché avec son père pendant 8 jours, parce que son père était justement anti-Dreyfusard, mais sa mère était comme lui, très Dreyfusard. Alors vous parlez de l'antisémitisme, vous parlez de Juifs et de catholiques, et puis j'ai l'impression qu'il y a comme un chiasme, c'est-à-dire une symétrie qui s'entrecroise entre la sainte catholique juive et le juif bloc. Je crois que c'est un terme que j'ai lu dans votre travail, qui me semble très important et qui va nous permettre de beaucoup mieux comprendre qui est bloc dans l'économie générale de la recherche, Stéphane Zagdanski.
Oui, Bloch, c'est un ami du narrateur, c'est le personnage juif emblématique de la recherche. Et là, cette caractéristique, c'est que c'est un juif qui fait tout pour ne pas paraître juif. Donc un juif ultra assimilé, le narrateur le décrit, il fourmille de citations en grec, donc de la Grèce antique, donc il fait tout pour ne pas être juif. À un autre moment de la recherche, il entend tout à coup quelqu'un dire d'affreuses phrases antisémites, et puis il se retourne et il voit que c'est son ami Bloch, donc ce juif. Et c'est celui qui accompagne le narrateur dans tous les milieux. de la recherche. C'est quasiment le seul personnage de la recherche qui est aussi présent que le narrateur, où que ce soit, dans les milieux aristocratiques, dans les bordels, dans les milieux bourgeois, du début à la fin de la recherche. Donc c'est un passeur aussi. Donc c'est un personnage très étonnant, c'est à la fois un passeur, donc le passage, c'est ce qui qualifie le mot hébreu justement, ça veut dire ceux qui passent, les passants, les passeurs. Et il a un autre rôle très important, c'est qu'il est le premier à donner un livre au début de la recherche, à lire au narrateur, et il lui fait découvrir la grande littérature à travers Bergotte. Il l'initie à Bergotte, donc il le fait passer de l'autre côté du miroir dans la vraie littérature. Donc c'est un personnage très ambigu, et à la toute fin de la recherche, il veut tellement cesser d'être juif qu'il se métamorphose, il se gomme les cheveux, et puis Proust dit, il a son nez qui se relevait en trompette, tellement il voulait se déjudaïser par antisémitisme et par haine de soi et puis par assimilation. Et du coup, il prend un nom qui est Jacques Durosier, qu'il renvoie d'un coup dans la rue des Rosiers, à savoir la rue juive, la plus juive de Paris. Donc sans s'en apercevoir, donc il y a un humour merveilleux, une ironie extraordinaire de Proust. Mais c'est un personnage pour lequel il a de la tendresse en même temps.
Alors ce qui est formidable, c'est que on voit Proust jouer avec les mots. Et j'ai même pensé, enfin j'ai lu, je crois, que Bergotte, qui est cet homme que vous dites le passeur, celui qui donne le livre, serait un jeu de mots en allemand, Berg, Gott, la montagne de Dieu, c'est-à-dire le Har Sinaï, la montagne du Sinaï où la Torah a été donnée aux enfants d'Israël. Donc cette vocation littéraire et du jeu dont on parle depuis tout à l'heure, avec les lettres, avec les mots, est absolument passionnant. Et je me suis demandé si on va jusqu'au bout de cette question de la mère juive, mais qui est cachée dans sa judéité, dans le roman. Elle s'appelle Veil, vous l'avez dit, Jeanne Veil. Et j'ai pensé que le mot veil, en français, signifie deux choses. Ça signifie le verbe veiller, et ça signifie aussi, en substantif, comme nom, la veille de lundi, la veille de mardi. Et j'ai pensé qu'on pouvait faire un exercice, et voir si le mot veille n'apparaissait pas en filigrane, de manière cachée, souterraine, comme je le disais tout à l'heure, dans la recherche. Et en faisant l'expérience, ce qui est absolument fantastique, on s'aperçoit que à chaque fois que le mot veille apparaît, il est question, une ligne avant ou une ligne après, de la judéité. Comment vous interprétez cette écriture marane, souterraine? D'ailleurs, à propos de marane et de maranisme, je voudrais rappeler que cette idée du maranisme de Proust, c'est le titre d'un livre de Juliette Racine, qui était une très très grande spécialiste de Proust et qui fut professeure de littérature comparée à l'université de Bar-Ilan. C'était l'une de mes collègues quand j'enseignais à Bar-Ilan et je tenais à rendre hommage à son travail. Donc, quel sens vous accordez à cette lecture qui pourrait paraître, je dirais, un simple jeu, mais qui semble éminemment important, Stéphane Zagdanski?
Oui, c'est une très belle idée, ce jeu avec la veille. Et le rapport avec la mère, il me semble que c'est aussi dès le début de la recherche, dès les premières pages de la recherche, c'est-à-dire cet enfant qui cherche, qui ne trouve pas le sommeil, et donc qui veille, qui n'arrive pas à s'endormir, et qui a besoin du baiser de sa mère. Et ce qui est très intéressant, c'est que le baiser de sa mère, il est comparé à une hostie qu'elle lui tendrait quand elle lui tend ses joues, et ça agace beaucoup le père du narrateur parle de rites absurdes, ce petit rituel du coucher dont l'enfant a besoin et sans lesquels il n'arrive pas à trouver le sommeil. Et c'est pour ça qu'il y a un chiasme avec le personnage de Bloch dont on vient de parler, c'est qu'il y a dans le personnage de la mère du narrateur une judéité qui est souterraine et qui, contrairement à celle de Bloch qui essaye de la dissimuler, qui apparaît à la surface mais invisiblement. C'est-à-dire tous les traits catholiques de la mère du narrateur sont d'une certaine manière aussi des traits juifs, et souvent des traits juifs. Et c'est en ça que c'est un maranisme. C'est-à-dire lorsqu'il décrit des choses typiquement catholiques de sa mère, on y voit, comme tout à l'heure à propos de la Madame Marie, la juive merveilleuse en Jean Saint-Œil, on y voit des qualités profondément juives. Alors voilà quand il dit, c'est au tout début de la recherche, il dit « quand elle avait penché vers mon lit sa figure, donc le lit, la veille, le sommeil, et la veille aussi l'écriture dans la nuit, quand elle avait penché vers mon lit sa figure aimante, et me l'avait tendu comme une hostie pour une communion de paix où mes lèvres puiseraient sa présence réelle et le pouvoir de m'endormir. » Ce qui peut nous amener à une anecdote merveilleuse lors d'une dispute avec sa mère, qu'il raconte, que Céleste Albaret raconte et que Proust aussi raconte d'une autre manière. Il s'était disputé avec sa mère, donc ça c'est dans la vraie vie, c'est pas dans la recherche, et il avait brisé un vase auquel elle tenait beaucoup de colère. Il était un peu colérique, ça c'est le juif trop gâté, l'enfant juif trop gâté par sa mère juive, donc il était un peu colérique et un peu caractériel. Et de colère pour faire mal à sa mère, il avait brisé un vase qu'elle adorait. Et elle lui avait écrit en lui pardonnant, et elle avait comparé ce bris du vase au fait que sous la choupa, pour les juifs, lorsqu'on se marie, on brise aussi un verre. Elle lui avait écrit, elle lui avait dit, « Eh bien, mon petit Marcel, ce sera comme dans les mariages juifs, tu as brisé la coupe, notre affection n'en sera que plus grande. Donc c'est quasiment comme si elle lui disait, nous nous sommes mariés ensemble par le prix de la coupe que tu as fait. C'est extraordinaire. Il n'y a qu'une mère juive qui peut parler comme ça à son fils.
Tout à fait. Alors, il y a une question fondamentale qui peut traverser les oreilles des auditeurs. C'est que on pourrait se poser la question, quel intérêt ou au-delà de dévoiler une certaine vérité historique, biographique de Proust, quelle est l'importance de révéler cette judéité de Proust dans son écriture ? Stéphane Zagdanski.
Je crois que c'est plus encore que de révéler cette judéité. C'est-à-dire que c'est, comme je vous le disais, il ne cache pas sa judéité. Il ne cache pas ses origines juives, il ne cache pas son amour pour sa mère juive et il ne cache pas son intérêt pour le peuple juif, tout simplement. Par exemple, tout le début de Sodome et Gomorre où il est question des homosexuels, c'est aussi une des grandes thématiques de la recherche. Il fait une comparaison entre ce qu'il appelle les deux races maudites que seraient les invertis, on appelait ça les invertis à l'époque de Proust, les homosexuels et le peuple juif. Et il a beaucoup de compassion et beaucoup d'intérêt pour ce qui, dans les préjugés sociaux, culturels, à l'égard soit des homosexuels, il était lui-même homosexuel dans la vie, soit des juifs, dévoile des choses sur les gens qui ont des préjugés, et non pas sur les personnes dont on parle. Il avait une oreille, un radar auditif et pensif et mental extraordinaire. Donc ça le passionne, que le peuple du livre soit un peuple aussi haï et aussi détesté, et qu'il soit lui en partie confronté à cet antisémitisme. C'était une période très antisémite quand même, toute la période de l'affaire Dreyfus, et on sait qu'il se proposait de se battre en duel si on disait du mal des juifs, enfin, il était très sensible à ça. Donc c'est pas du tout que... C'est un marane, mais c'est vraiment un marane spirituel. Et il avait une grande affection pour cette part de lui-même qui était juive, et évidemment qui est très liée à l'écriture, parce que c'est aussi le peuple du livre.
Merci Stéphane Zagdanski pour cette conversation absolument passionnante. Je rappelle le titre de votre livre sur Proust, « Le sexe de Proust » aux éditions Gallimard, ainsi que « L'impureté de Dieu, souillure et scission dans la pensée juive » aux éditions du Félin en poche. Et je voulais aussi signaler que vous êtes représenté pour votre activité d'artiste plasticien par la galerie Éric Dupont et qu'un tableau y est exposé actuellement jusqu'au 20 novembre intitulé « Aleph de Borges ». En tout cas, merci encore Stéphane Zagdanski et je vous dis à la semaine prochaine.
Merci à vous, Marc-Alain.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager et Marc-Alain Wachnin. À la prise de son aujourd'hui, Cédric Châtelus, à la réalisation, Alexandra Malka, Coltouv, Leitraot. Au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.